avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Qui sabote quoi en mer d'Oman en ce moment? Les Américains, vidéo à l'appui, accusent l'Iran d'avoir attaqué deux pétroliers. Téhéran répond et parle de sabotage diplomatique, analyse dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur les faux pas de Nathalie Loiseau à Bruxelles. À force de critiques, elle renonce à briguer la présidence du parti centriste au Parlement européen. 7 ans de prison à l'encontre de Patrick Balkany, voici les réquisitions du parquet national financier hier. Compte rendu de l'audience dans cette édition. Nous nous intéresserons aussi à deux manifestations associées à des grèves. L'une est prévue aujourd'hui au Brésil contre la politique économique du président Jair Bolsonaro. L'autre a lieu depuis 5 jours maintenant à Hong Kong, sous la violence des forces de l'ordre, vous l'entendrez. Après une bataille navale, serait-ce une partie d'échecs qui débute dans le golfe Persique? Américains et Iraniens avancent leurs arguments comme des pions pour déstabiliser l'adversaire. Deux pétroliers, norvégiens et japonais, disent avoir été attaqués hier en mer d'Oman, éventrés en feu, sans que l'on sache comment. Il n'y a pas eu de blessés, mais une quarantaine de marins secourus, selon Téhéran. Les États-Unis en sont déjà convaincus, c'est l'Iran qui serait le responsable. Le ministère américain de la Défense affirme même avoir des preuves, Grégory Phillips.
Le Pentagone a publié tard hier soir une vidéo qui dure 1 minute et 40 secondes. En noir et blanc, on y voit une petite embarcation avec à son bord 7 ou 8 hommes s'approcher de l'un des deux pétroliers. Le ministère américain de la Défense affirme que ce bateau appartient aux gardiens de la révolution islamique et que ce sont bien des soldats iraniens qui sont en train de récupérer une mine ventouse non explosée sur le flanc du pétrolier. Le Pentagone a aussi publié une photo en couleur de la coque trouée du supertanker. Voilà en tout cas pour les Américains la preuve de l'implication directe de Téhéran dans ces attaques. Le secrétaire d'État Mike Pompeo l'a dit de manière très explicite hier lors d'une conférence de presse au département d'État. L'Iran menace clairement la paix et la sécurité internationale. Quelques heures plus tard, c'est à New York, cette fois devant le Conseil de sécurité, que les Américains ont répété ces accusations. La mission iranienne aux Nations Unies a alors démenti toute implication. Quant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il est inquiet. Le monde, dit-il, ne peut pas se permettre une confrontation majeure dans cette région du Golfe.
Voilà pour la guerre de communication et l'Iran qui dément donc, trouvant d'ailleurs suspect qu'un navire japonais puisse être attaqué au moment même où le premier ministre japonais, Shinzo Abe, rencontre l'ayatollah Khamenei en Iran. Alors qui dit vrai? Une chose est sûre, le Golfe Persique est un lieu disputé car il est essentiel dans le système économique mondial, Christian Chéneau.
C'est une zone à très haute valeur stratégique. C'est par cet étroit et sinueux couloir maritime que les monarchies arabes du Golfe exportent leur pétrole et leur gaz vers l'Asie et l'Europe. Une véritable autoroute énergétique empruntée chaque jour par une noria de tankers transportant plus de 10 millions de barils de brut, ce qui représente environ un tiers du commerce pétrolier mondial. C'est aussi par cette route maritime que le Qatar exporte son gaz naturel liquéfié, le GNL, via sa flotte de méthaniers. Et ce n'est pas un hasard si ce coffre-fort énergétique est puissamment défendu par les Occidentaux. Les Américains ont installé le QG de leur 5e flotte à Bahreïn et leur principale base aérienne au Qatar avec 10 000 hommes sur place. La France dispose, elle, d'une base aéronavale à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, où sont stationnés des rafales et des navires militaires. Parce que sur l'autre rive, il y a l'Iran, aujourd'hui sous embargo, et qui dispose aussi de bases militaires navales. Bref, un environnement géopolitique hautement inflammable.
Le voilà, le nouveau projet de l'Union européenne, un budget commun pour la zone euro. Ces grandes orientations ont été actées cette nuit après une douzaine d'heures de discussions entre les ministres des Finances européens. Reste encore à connaître les sources de financement de ce budget commun. Le ministre français Bruno Le Maire en donnera les détails ce matin. La création d'un budget propre à la zone euro était un projet phare du président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui pourrait voir son ambition européenne légèrement freinée, la tête de liste de La République En Marche renonce à briguer la présidence du groupe centriste au Parlement européen. Nathalie Loiseau dit avoir pris cette décision au nom de l'unité du groupe, mais l'autre raison de cet abandon est le manque de soutien autour d'elle ces derniers temps, car elle a multiplié les faux pas, Audrey Tison. Qualifier ses adversaires d'ectoplasme, ses alliés d'hommes frustrés ou aigris, ça n'est pas le meilleur moyen de s'imposer au niveau européen, où la discrétion et le sens du compromis sont les maîtres mots. La publication de ces propos de Nathalie Loiseau a été la goutte d'eau de trop. Beaucoup pensaient déjà qu'elle n'était pas faite pour le job de présidente de groupe. De moins en moins soutenue, la Française risquait de ne pas être élue. Elle préfère renoncer à briguer le poste. Pour faire bonne figure, elle indique à ses collègues qu'il y avait trop de candidats, qu'il ne fallait pas rajouter à la désunion. La stratégie affichée par les macronistes français, c'est on lâche sur le poste de numéro 1 pour mieux se placer dans les présidences de commission, d'autres postes très influents dans l'hémicycle. Pascal Canfin espère par exemple prendre la tête de la commission environnement, poste sensible également brigué par les Verts.
Précisons que ces désignations n'auront pas lieu avant le mois de juillet. Ce processus-là est également très long, il est aussi issu de mariages de raison. Au Royaume-Uni, le quotidien Le Guardian rapporte ce matin que 3 candidats conservateurs seraient en train d'envisager un accord, une alliance pour contrer Boris Johnson, favori pour prendre le poste de Premier ministre en Grande-Bretagne. L'ancien ministre et ancien maire de Londres a remporté hier le premier tour du scrutin interne au Parti conservateur. Patrick Balkany troquera-t-il ses somptueuses villas pour une cellule de prison ? Hier, en tout cas, le ministère public a requis 7 ans de prison ferme contre le maire de Levallois-Perret avec un mandat de dépôt à l'audience. Il est jugé, je vous le rappelle, pour blanchiment et corruption. S'agissant de sa compagne et première adjointe à la mairie, Isabelle Balkany, une peine de 4 ans avec sursis a été demandée. Sursis requis également contre les 3 autres prévenus, dont le fils Balkany, Alexandre Balkany. Lors des réquisitions, le parquet a souhaité rappeler les liens qui les unissaient, Florence Turme.
Quel pacte avez-vous donc formé ? Interroge Arnaud Delaguiche en se tournant vers les prévenus. Les deux procureurs du parquet national financier se partagent la parole sur le rôle des uns et des autres dans les deux volets de l'accusation. Et pour le blanchiment de fraude fiscale, les chiffres donnent le vertige. 13 millions d'euros retenus par l'instruction, insiste Serge Roch. Avec Jean-Pierre Aubry, le prête-nom jusqu'au sacrifice, Arnaud Claude, le pilote de l'opération dont la responsabilité est aggravée par sa profession d'avocat, Alexandre Balkany, le fils loyal aux mensonges éhontés. Et puis, la villa fantôme de Marrakech dont personne ne veut reconnaître la propriété et l'opération des tours de Levallois. C'est la partie corruption, la plus difficile à démontrer pour l'accusation, mais aux yeux du parquet national financier, la chronologie éclaire le dossier. Mohamed Al-Jaber a obtenu des reports d'échéance au moment où il venait de payer une partie de la villa du Maroc. N'importe quoi, proteste Patrick Balkany, contre qui le ministère public requiert 7 ans d'emprisonnement et 10 ans d'inéligibilité, une peine nécessaire pour sanctionner cette atteinte au lien social, justifient les procureurs en insistant sur le comportement du maire de Levallois au cours de son procès. Il a évoqué la noblesse du métier, le dévouement des élus, mais la corruption, c'est la plus grave des atteintes à la probité publique, conclut-il, la négation de la démocratie locale.
Ce procès Balkany reprendra lundi avec les plaidoiries de la défense. Des armes, des stupéfiants, des faux papiers. Tout cela se vendait en ligne via le dark web, comprenez l'internet caché clandestin, l'internet de Londres. Un forum du dark web a été démantelé ces derniers jours, le parquet de Paris l'annonce. Près de 6000 internautes l'utilisaient encore la semaine dernière, dont plus de 700 vendeurs. 3 suspects sont aujourd'hui en garde à vue. Restons dans les nouvelles technologies avec ce grand reportage tourné pour nous par notre correspondante en Chine. Et grand reportage sur France Culture sur la guerre technologique que se livre Washington et Pékin depuis des mois. La Chine high-tech se bâtit au sud du pays, à Shenzhen, qui est d'ailleurs surnommée la Silicon Valley chinoise. Elle attire des talents chinois et étrangers. Et notre correspondante Dominique André a rencontré ce jeune ingénieur sino-américain, Eric Han. C'est un génie de la 5G. Il a fait ses classes sur la côte ouest des États-Unis avant de rejoindre Shenzhen.
I was born in China.
Je suis né en Chine, mais dans une famille coréenne, et j'ai la nationalité américaine. Si vous avez besoin de faire n'importe quel produit électronique, que ce soit pour votre passion personnelle ou pour votre projet professionnel en recherche et développement, si vous allez n'importe où ailleurs dans le monde, ça vous coûtera plus cher et ça vous prendra plus de temps pour faire la même chose. On est tellement performants ici. Je connais des gens en Californie, dans la Silicon Valley, qui m'appellent pour me dire « Hey Eric, est-ce que tu peux nous aider à fabriquer ce produit ?» Et je leur réponds « D'accord, envoyez, puis je vais acheter les composants et une fois que c'est fait, je leur expédie. C'est moins cher et plus rapide. Ça me prend une ou deux semaines pour le fabriquer et pour qu'il soit prêt pour les tests. Alors qu'aux États-Unis, ça prendrait 2 ou 3 mois. »
Pour découvrir davantage de témoignages venus de Chine, écoutez donc le grand reportage de Dominique André, Chine, l'offensive high-tech. Il sera diffusé à partir de 17h ce soir. Il est réalisé grâce à Annie Bro et sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Il est 8h passé de 10 minutes sur France Culture. Dans un peu plus de 2 heures s'ouvrira en Allemagne le procès de 2 gynécologues accusés d'avoir fait de la publicité pour l'avortement. Elles proposaient en fait l'IVG à leurs patientes. Or, en Allemagne, les médecins ne peuvent pas dire publiquement, sur leur site internet par exemple, qu'ils pratiquent l'interruption volontaire de grossesse. La loi existe depuis 86 ans, Ludovic Piétenu.
C'est un article du code pénal qui date de mai 1933, peu après l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Depuis, tout le monde avait un peu oublié cette loi jusqu'à ce que des militants anti-avortement décident il y a quelques années de s'en servir pour poursuivre en justice des gynécologues, notamment une femme devenue un symbole pour bon nombre d'associations féministes et pro-IVG, Christina Hennel, bientôt 63 ans, condamnée fin 2017 à 6 000 € d'amende. Ce procès a généré autour d'elle toute une mobilisation et un débat dans le pays pour la légalisation de la avortement et non plus sa seule dépénalisation, ainsi qu'un meilleur accès à l'information que ce vieil article de loi interdit. Des mois et des mois de discussions au sein de la grande coalition, pour pas grand-chose, la gauche, les sociodémocrates, n'ont pas réussi à arracher aux chrétiens démocrates d'Angela Merkel l'abrogation de cet article. Juste une simple modification en vigueur depuis la fin mars, les médecins gynécologues ne peuvent toujours pas dire s'ils pratiquent l'avortement. C'est un site internet généraliste qui recense les médecins ou les hôpitaux où se rendre pour obtenir des informations. Les 2 gynécologues berlinoises qui comparaissent aujourd'hui sont les premières depuis cette légère modification de la loi, mais les faits pour lesquels elles sont poursuivies sont antérieurs. C'est donc bien la loi nationale socialiste de 1933 qui pourrait s'appliquer.
Une manifestation de soutien à ces 2 gynécologues est prévue avant l'audience devant le tribunal à Berlin ce matin. Les Brésiliens, beaucoup de Brésiliens en tout cas, se préparent à manifester ce vendredi. Une mobilisation est annoncée contre la réforme des retraites dans le pays et plus généralement contre la politique économique du gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Une grève s'ajoute d'ailleurs au rassemblement, Anne Vigna.
Le Brésil devrait s'arrêter ce vendredi. Les transports, les banques, les écoles, les universités, la plupart des administrations seront en effet à l'arrêt pour s'opposer à la réforme des retraites et au président Bolsonaro, explique l'universitaire Celso Sanchez.
Cette grève montre la limite de la population face aux régressions après plus de 100 jours de gouvernement. Spontanément, la société s'organise pour la première fois autour d'une grève générale. Je n'ai jamais vu une mobilisation si rapide, si intense de secteurs si différents de la société pour une grève générale.
Syndicats, étudiants, partis d'opposition comptent bien aussi profiter de cette grève pour demander la liberté de l'ancien président Lula. Selon Cleverson, il est étudiant et membre d'un syndicat étudiant.
La liberté de Lula sera un des thèmes de la grève car il est celui qui a le plus donné la priorité aux pauvres. Il est un des thèmes qui ne peut sortir de notre agenda de mobilisation et surtout maintenant après les révélations du média Intercept qui montrent à quel point tout son procès a été une farce.
Le président Bolsonaro a redit son appui à son ministre de la Justice, Sergio Moro, alors que les révélations du média The Intercept continuent et sont de plus en plus gênantes pour l'ancien juge.
Une révélation qui expliquait, je le rappelle, que l'enquête anticorruption ayant mis l'ancien président Lula en prison, que cette enquête avait été orchestrée par un ministre de l'actuel gouvernement de Jair Bolsonaro. Partons maintenant à Hong Kong où le calme est revenu ce matin. Le retour massif dans les rues des manifestants est prévu dimanche, toujours dans le but d'empêcher le vote d'une loi sur l'extradition possible en Chine. Un moment de calme donc en ce moment, pendant lesquels les manifestants témoignent. Souvent jeunes, 21 ans en moyenne, ils racontent la riposte disproportionnée des forces de l'ordre ces derniers jours face à leur rassemblement pacifique. Florence Dechangy les a rencontrés.
Les Hongkongais, généralement très respectueux de l'ordre, ont longtemps fait bon ménage avec leur police, mythique au cinéma, respectée, parfois même adulée par la population. Mais ce n'est plus le cas depuis quelques années et les heurts de mercredi ont confirmé le désamour.
J'étais en train de m'enfuir et ils ont envoyé des bombes lacrymogènes juste à la sortie du métro, comme si leur but était juste de nous torturer davantage.
Certes, les violences urbaines sont extrêmement rares à Hong Kong qui ne connaît quasiment pas de délinquance. Les jeunes rassemblés mercredi ont donc été d'autant plus choqués par la violence policière.
C'était horrible, totalement violent. Ils ont envoyé des gaz lacrymogènes vers les stations de ravitaillement et les sorties. On ne pouvait plus s'enfuir.
Mais les critiques les plus sévères sont liées aux nouvelles armes utilisées par la police de Hong Kong et la manière dont elles ont été utilisées.
Ils ont tiré des balles à très courte distance. Ils visent les yeux des étudiants. Des balles en caoutchouc. Vous savez, ce sont des balles qui ne tuent pas, mais qui peuvent blesser grièvement. Des balles en caoutchouc. Ils utilisent des bâtons et tapent sur la tête. On n'a pas envie d'être blessé.
On n'a que des parapluies et des casques. Ce n'est que de la protection.
La police a affirmé avoir utilisé 150 cartouches de gaz lacrymogène pendant cet après-midi de heurts, deux fois et demi plus que pendant les 79 jours d'occupation de 2014, et avoir tiré une vingtaine de rubber bags ou sacs à poids, des armes anti-émeutes américaines, généralement utilisées dans des contextes beaucoup plus violents. 11 personnes ont été arrêtées suite à ces désordres.
La violence dans les cortèges encore, et en France, cette fois en bref, l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les LBD, ainsi que les grenades de désencerclement des policiers, leur utilisation a augmenté l'année dernière de plus de 200%, chiffre donné par l'IGPN, la police des polices, après une fin d'année marquée évidemment par les manifestations des Gilets jaunes. La météo très rapidement de ce vendredi qui débute, des pluies et des orages sur l'est du pays et sur l'Occitanie sont prévues aujourd'hui, de belles éclaircies en revanche sur le nord-ouest. Ce matin, il fera 17 degrés à Rennes, Bordeaux et Lyon, 18 à Lille et Paris, 20 à Besançon, 29 à Marseille et déjà 36 degrés en Corse ce matin. Il est 8h18 sur France Culture. Dans une minute, nous retrouvons Frédéric Seyss pour son billet politique. Frédéric qui reviendra sur la collecte de signatures pour organiser un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette collecte a débuté hier.